Bruits insolites, sons discrets volés à la nature environnante ou à notre quotidien, notre 21e siècle nous entraîne dans un véritable tourbillon sonore. Micro-trottoirs, regards pluriels de musiciens, de partenaires culturels de la scène nantaise et d'anonymes venus des quatre coins de l'Hexagone, c'est l'occasion de voyager pendant une heure avec Anna et Sylvia dans Au fil des sons.
Bonjour Anna.
Bonjour Sylvia.
Nous sommes ensemble pendant une heure dans Au fil des sons, l'émission de Prune, qui nous éclaire sur les sons et les bruits qui nous entourent.
Ce mois-ci, dans Au fil des sons, nous nous consacrons en partie aux sons issus de l'univers liquide.
Et aujourd'hui, nous recevons Michel Meunier, créateur et initiateur des spectacles de l'association Transmission. Il nous parlera de son dernier spectacle « Sons et lumières » dans la nuit « Liberté », hymne à la résistance de 1940 à 1944 dans les campagnes rurales de notre région.
Également, notre invitée surprise, Camille, architecte à Marseille, nous livrera son regard au cours de cette période de confinement vécue de mars à mai 2020.
Au fil des sons, c'est donc parti avec notre micro-trottoir d'octobre qui sera nantais et toulousain.
Capture de voix dans Au fil des sons.
Que représente la musique pour vous ?
Quelque chose de très important. J'ai acquis beaucoup de CD et j'aime écouter régulièrement de la musique, un peu de toutes sortes.
Ça représente à la fois beaucoup de choses et pas beaucoup de choses. C'est un moment privilégié entre moi et moi-même, mais ça peut être un moment partagé aussi.
Alors, la musique représente pas mal de choses, puisqu'elle est quand même très présente dans ma vie. Que ce soit dans ma vie quotidienne, j'ai toujours des écouteurs aux oreilles, j'écoute toujours de la musique. Pour m'isoler, mais aussi au travail, pour me concentrer. Et, j'écoute beaucoup de musique avec des amis, quand on passe des moments tous ensemble.
Un moment de détente.
La place de la musique dans votre vie.
Une place, quand j'étais jeune, moins importante, mais maintenant, très importante.
C'est pas énorme dans le sens où il n'y a rien de professionnel et je suis pas... J'ai jamais fait d'instrument, mais j'écoute beaucoup de musique et c'est toujours des moments partagés.
Mais alors un peu comme la question d'avant, elle a une grande place. Moi j'ai fait beaucoup de piano plus jeune, donc c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a beaucoup reliée avec ma mère et ma sœur. Et aujourd'hui elle a également une grande place puisque je vis dans un appartement avec des gens qui écoutent énormément de musique. Donc il n'y a pas une journée que je passe sans écouter de la musique.
Ça dépend des moments, mais on va dire plutôt importante.
Donnez une définition de la musique, votre définition de la musique.
La musique, ça adoucit les mœurs, je ne sais pas comment la définir. Ouais, c'est un ensemble de notes.
C'est de la culture et du bruit.
Ça, c'est un peu compliqué. Je dirais peut-être que c'est une mélodie que l'on doit chacun s'approprier.
Voilà, des sons qui permettent de s'évader, voilà, de s'aérer un petit peu l'esprit, de vibrer.
Et si vous aviez à fredonner un air de musique, quel serait-il ?
Le tourbillon de la vie chanté par Jeanne Moreau.
Elle avait des bagues à chaque doigt, des tas de bracelets autour des poignets, et puis elle chantait avec une voix qui sitôt m'enjola. Elle avait des yeux d'opale qui me fascinaient. Il y avait l'ovale de son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale. On s'est connu, on s'est reconnu, on s'est perdu de vue, on s'est reperdu de vue, on s'est retrouvé, on s'est réchauffé, puis on s'est séparé. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revu un soir, aïe, 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 ça fait déjà un femme bail, ça fait déjà un femme bail.
Garo Gori.
Et vous pouvez le fredonner ?
Garo Gori.
C'est à travers de larges grilles que les femelles du canton contemplaient un puissant gorille, sans souci du qu'en dira-t-on. Avec impudeur, c'est comme mère lorgnait même un endroit précis que rigoureusement ma mère m'a défendu de nommer ici. Gare au gorille. Tout à coup, la prison bien close où vivait le bel animal s'ouvrant, c'est pourquoi je suppose qu'on avait dû la fermer mal. Le Saint-Jean sortant de sa cage dit c'est aujourd'hui que je le perds. Il parlait de son pucelage, vous aviez deviné j'espère. Gare au gorille. Patron de la ménagerie criait t'es perdu, nom de nom, c'est assommant car le gorille n'a jamais connu de guenon. Dès que la féminine engeance sut que le singe était puceau, au lieu de profiter de la chance, elle fif des deux fuseaux. Gare au gorille.
Je vais pas le fredonner parce que je pense que ça ferait mal aux oreilles à tout le monde, mais je vais vous donner ma chanson préférée qui est Let It Be des Beatles.
In times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. And when the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. For though they may be parted, there is still a chance that they will see. There will be an answer, let it be.
Là, tout de suite, j'en ai pas. On vient d'écouter le jingle de la SNCF, mais c'est pas mon type de musique. Mais ça pourrait être une chanson de la CDC, ça pourrait être Blur, ça pourrait être...
Atmosphère, atmosphère. Est-ce que j'ai bien entendu ? Atmosphère sonore ?
Pour cette première émission, j'ai choisi de vous parler de la sonorité des liquides dans des cadres fort différents, comme vous allez pouvoir vous en rendre compte en découvrant ces diverses captations auxquelles j'ai associé une musique illustrant le choix que j'ai fait, l'univers liquide.
Out the window, see what's happening. days dream away. Let the sun take a holiday. Flowers fade and see the children play. Lay back and groove on a rainy day. Well, I can see.
Cette première captation, vous l'aurez reconnu, est celle d'une pluie intense et la voix d'Hendrix dans sa célèbre chanson « Rainy Day ». C'est la façon dont Jimmy explore les possibles de son instrument qui m'ont fait penser à l'intensité d'une pluie battante.
Pour être sincère, Anna, ton association entre le son choisi et la musique d'Hendrix n'a pas été du tout une évidence pour moi. Hormis son titre « Rainy Day », je n'ai pas compris ton choix. Alors maintenant, avec cette explication, je comprends mieux. Réécoutons un extrait.
Rain a day, rain all day. Ain't no use in getting up tight. Just let it groove its own way. Let it drain the world its own way. Lay back and groove. Derrière elle, des milliers de ronds dans l'eau, comme un manège de lune avec ses chevaux d'étoiles, comme un anneau de Saturne, un ballon de carnaval, comme le chemin de ronde que font sans cesse les heures, le voyage autour du monde. D'un tournesol dans sa fleur, tu fais tourner de ton nom tous les moulins de mon cœur, comme un écheveau de laine entre les mains d'un enfant, ou les mots d'une rengaine pris dans les harpes du vent. Comme un tourbillon de neige, comme un vol de goélands, sur des forêts de Norvège, sur des moutons d'océan, comme le chemin de ronde que font sans cesse les heures, le voyage autour du monde d'un tournesol dans sa fleur. De ton nom, tous les moulins de mon cœur.
Merci Anna d'avoir choisi Les moulins de mon cœur de Michel Legrand. Une chanson que je trouve magnifique. J'aime la simplicité des mots dans cette chanson, Les moulins du cœur dont parle Michel Legrand. Il tourne pour moi comme le temps qui passe. C'est une chanson qui m'émeut finalement.
Cette captation du son liquide a été prise dans ma salle de bain, en faisant couler de l'eau dans le lavabo. Ensuite, de la main droite, tandis que je tenais mon téléphone de l'autre, j'ai soulevé l'eau pour créer du bruit. J'avoue m'être amusée comme une enfant qui joue dans les flaques d'eau, et c'est pourquoi j'ai pensé à Michel Legrand qui, selon moi, sacralise l'univers de l'enfance dans ses mélodies.
Ah, je t'imagine très bien en train de t'amuser devant ton lavabo, Anna.
Au début du film « Mort à Venise » de Luchino Visconti, Gustav von Aschenbach, vieux compositeur en villégiature, très librement inspiré de Gustav Mahler, embarque sur l'île du Lido pour Venise à bord d'un vaporetto. On voit alors l'eau de la lagune s'ouvrir au passage de l'embarcation sur la musique de la 5e symphonie de ce même compositeur.
Ah, et c'est cet instant qui mêle musique et univers liquide que tu as eu envie de nous proposer. Pour ma part, Mort à Venise, c'est un film que j'ai vu quand j'étais jeune, je devais avoir environ 16 ans, avec une amie qui m'emmenait toujours voir des films improbables dont on ne parlait pas à la maison. Alors je me souviens m'être ennuyée et avoir été assez mal à l'aise en regardant ce film, sans doute à cause des thèmes évoqués comme la maladie, la vieillesse, l'homosexualité et la mort. Je n'étais pas prête à voir un tel film. Et donc, dans le cadre de la préparation de notre émission, je l'ai revu et compris toute la difficulté d'évoquer pour un cinéaste tel Luchino Visconti le thème de l'homosexualité et de la pédophilie dans l'Italie puritaine des années 70. Et là, je l'ai appréhendé tout autrement.
Oui, n'oublions pas que, à cette même époque, Pier Paolo Pasolini revendiquait haut et fort son homosexualité. Et il en est mort puisqu'il a été sauvagement assassiné dans la nuit du 1er au 2 novembre 1975 sur la plage d'Ostie, près de Rome. Et les circonstances de sa mort demeurent toujours aussi mystérieuses.
Enfin, Anna, on peut se réjouir de voir que nos mentalités ont bien évolué dans ce domaine. Pour revenir au film, ce sont l'esthétisme de ces personnages, la délicatesse et la pudeur de Visconti qui nous donnent à voir sans jamais nommer que je retiendrai. Aussi, les feux des rayons du soleil irisant la lagune m'ont subjuguée, au point presque d'oublier l'histoire et le sujet, finalement.
Et il faut dire que le choix de la 5e symphonie de Gustav Mahler colle parfaitement à l'ambiance de ce film avec ses zooms avant et arrière de la caméra et notamment cette dernière image où l'on voit le jeune adolescent androgyne, Tadzio, de trois quarts, scrutant l'horizon de la lagune dans un bain de lumière, tel un Christ sanctifié. Cela ne peut que réveiller nos émotions les plus profondes face au sens de l'existence.
Et ce son de la vague qui vient se lever dans la 5e symphonie de Gustav Mahler...
Oui, du grand art, c'est bien.
Petit bruit. Je l'ai tout de suite identifié comme annonciateur d'un moment festif.
Et oui, dans notre époque tourmentée, il faut se consoler avec de doux bruits comme celui d'un verre qui se remplit, même d'eau, car il ne faut pas oublier que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé.
Ce choix nous permet aussi d'avoir une pensée vers ce chanteur, poète, fantasque qu'était Jacques Higelin. Sur scène, il donnait tout à son public. C'était un artiste entier. Il faisait le show qui pouvait durer plus de 3 heures et il donnait toute sa spontanéité. En France, nous avons peu de fous chantants comme pouvait l'être Jacques Higelin. Aujourd'hui, moi je suis fan de son fils, Arthur H. Vous avez peut-être pu avoir le plaisir de le voir au Grand T dans « Mort prématurée » d'un chanteur populaire dans la force de l'âge. Spectacle qu'il a créé dernièrement en collaboration avec Wajdi Mouawad, actuel directeur du Théâtre de la Colline à Paris.
Associer l'univers liquide au champagne est une évidence. Et ce breuvage divin accompagne les occasions festives. Lors de l'ultime voyage de Jacques Higelin au cimetière du Père-Lachaise, ses fans l'attendaient à l'entrée du cimetière, bouteille de champagne à la main, et faisaient détonner le son des bouchons au passage de son cercueil, tandis que tout le monde fredonnait « La nuit promet d'être belle, car voici qu'au fond du ciel apparaît la lune rousse. » Les hymnes saintes fausses, tout le commun des mortels croit voir le diable à ses sous.
Allez, voilà, j'ai vu guère, ouvrez mon sarcophage, et vous pages pervers, courez au cimetière,
nécrophages. Que ce soir nous sommes attendus dans les marécages. Voici mon message. Cauchemars, fantômes et squelettes, les siffles des rosiers noirs, près de la mare aux oubliettes, venus du sphère obligatoire. Elfe follet, elfe faune et farfadet, c'est Fred mes grands carnassiers. Une muse un peu dodue me dit d'un air entendu, vous auriez pu vous raser. Comme je lui fais remarquer, deux, trois pendus attablés qui sont venus sans cravate. Ah, tu t'as marqué. Elle me lance un œil hagard et vomit sans crier gare quelques vipères écarlates. Vampire ébloui par de lubrique vestale et géris insatiables chevauchant des valkyries. Infernales appétits de frénésie bacchanale qui charme nos âmes envahies par la mélancolie. Envoie satyre joufflu, bouc émissaire, gargouilleuse émue, fière gorgone. Laissez ma couronne aux sorcières et mes chimères à la licorne. Soudain les arbres frissonnent, car Lucifer en personne fait une courte apparition. Qu'on lui donnerait volontiers le bon Dieu sans confession. S'il me laissait malicieux courir le bout de sa queue devant ses yeux maléfiques et ne se dressait un bon dans un concert de jurons disant d'un ton pathétique que l'état des obscènes cyniques et corrompus passe grief de leur peine. Ciel blanchi, esprit, je vous remercie de m'avoir si bien reçu. Cochez lugubre et bossu, déposez-moi au manoir et lâchez ce crucifix. Décrochez-moi ces gousses d'ail qui déshonorent mon portail et me cherchez sans retard. L'ami qui soigne et guérit, la folie qui m'accompagne et jamais ne m'a trahi.
Interview d'Au fil des sons.
Bonjour Michel Meunier, merci d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour Sylvia.
Michel Meunier, vous avez été professeur d'écologie au lycée Briassé, au Landreau, jusqu'en 2009. Aujourd'hui, vous êtes retraité, un retraité hyperactif, puisque vous œuvrez dans de nombreuses associations, qu'elles soient culturelles, artistiques et même humanitaires dans la région. Si nous vous avons invité aujourd'hui, c'est pour nous parler de votre dernier spectacle, Dans la nuit, Liberté. Ce son et lumière proposés par l'association Transmission, à Trans-sur-Erdre, située près d'Anceny, qui mobilise près de 200 acteurs bénévoles. Il retrace la période des années 40 en Loire-Atlantique, la résistance, la vie dans les campagnes, ainsi que la libération par les troupes américaines. Alors Michel, ce spectacle est un transmetteur de mémoire. C'est important pour vous de transmettre la mémoire à nos jeunes générations ?
Très important. C'est-à-dire que, bon, on peut, c'est vrai, les associer à des commémorations, comme ça se fait actuellement, je trouve ça très très bien. Mais quand ils voient un certain nombre d'images dans un spectacle comme le nôtre, qui est plus un spectacle théâtral maintenant que son et lumière, eh bien ça leur donne dans leur tête, je crois, en particulier sur des scènes de la déportation, ça leur donne dans la tête des images qu'ils ne connaissaient pas ou qu'ils passaient très rapidement. Et on a la chance, par exemple, sur deux communautés de communes, celle du Pays d'Ancenis et celle d'Erdre et Gèvres, en Pays de Loire, d'avoir des gens qui ont décidé d'amener les scolaires 3e voir ce spectacle. Ça, c'est une démarche que je trouve extrêmement positive. Il ne faut pas simplement leur parler, il faut leur montrer. Et c'est vrai, on a la chance sur ce dernier spectacle d'avoir pu, à travers les différentes scènes, donner une âme à cette période et montrer qu'il y a eu des patriotes dans notre région, des gens qui se sont battus pour notre liberté. Et ça, il ne faut pas l'oublier.
Alors, lorsqu'il nous a été demandé de nous confiner au mois de mars et de stopper toute activité professionnelle, qu'elle soit sportive, culturelle, quelles ont été vos premières pensées pour ce spectacle ?
Eh bien, j'ai pensé qu'on n'allait pas annuler. J'ai pensé qu'on pouvait résister, parce que ça, c'est important de résister dans la vie. Donc, à l'association de transmission, on prenait nos précautions, mais on n'avait pas le Covid dans la tête. Parce que le cœur était toujours orienté pour présenter ce spectacle. Pour nous, c'est un moment fort de notre année. Pendant un mois, on est tous ensemble. On vit les répétitions, on vit les spectacles. Et abandonner, ce n'était pas possible. Et malheureusement, donc le 3 juillet, il a fallu déposer les armes. Et ça a été un moment pour moi extrêmement difficile, extrêmement lourd. C'était un vendredi soir et le samedi matin, France 3 nous annonçait qu'on allait donc tourner un film documentaire. Et là, ça a permis de rebondir et ça a permis de redonner un sens à notre année. C'était ça qui était important. Ce n'est pas pour nous, mais c'est aussi pour tous les gens qui nous accompagnent. Ils avaient besoin de se guérir de ce coronavirus, dans leur tête au moins, à travers ce projet donc, de film.
Donc, vous avez rebondi,
oui.
Finalement, puisque donc, France 3 vous a proposé donc, de réaliser un documentaire. Alors, est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu de ce documentaire qui vient de se terminer ?
Alors, c'est un documentaire qui, en réalité, qui vient de très loin, parce que les premières démarches auprès de France 3, ça fait à peu près 10 ans. On l'a renouvelé, voilà, 5 ans, avec ce nouveau spectacle. Et là, il fallait donc que ce soit réalisé parce qu'on était dans le 75e anniversaire de la Libération. Donc France 3 a demandé donc à une équipe de production de Lyon de prendre le projet. Donc monter un projet comme ça, ce n'est pas forcément évident parce qu'il faut trouver des fonds. Et les fonds, en particulier les Centres nationaux du cinéma, c'est aussi France 3. Et c'est aussi le Conseil régional des Pays de la Loire. Et donc... ils étaient prêts cette année donc à faire ce film qu'on n'attendait plus parce que, on peut faire des démarches, mais les démarches n'aboutissent pas toujours. Et pour nous, ça a été l'étincelle et la possibilité pour tous les gens de l'association de vivre une expérience qui est une expérience difficile. Le cinéma, c'est très difficile. Recommencer 10-12 fois une scène entre 10h le soir et 2h le matin, ce n'est pas forcément facile. Il faisait plutôt frais à notre période, donc ça n'arrangeait pas les choses. Mais ça permettait de voir un petit peu qu'on pouvait pousser très très loin donc, notre travail au niveau scénographique. Et ça, c'est un point positif pour l'an prochain, pour commencer, donc recommencer ce spectacle.
Vous êtes par conséquent satisfait du documentaire réalisé ?
Non, on a vécu des choses très bien, très très bien, mais ensuite c'est un montage. C'est un montage qui dure 5 semaines, donc dans un studio de France 3 à Lyon. Et au bout de ce montage, donc, ils vont sortir 52 minutes, puisque c'est le format qui est pour ce genre de film. Alors on attend ces 52 minutes, d'accord, avec un peu d'anxiété, parce que bon, ça s'est bien passé, c'était un esprit fusionnel entre l'association et les réalisateurs, mais on attend quand même parce que ça fera très drôle de voir nos images dans une télévision. Jamais on a connu ça.
D'accord. Est-ce que vous avez Est-ce que vous avez eu l'impression de vivre finalement des frustrations pendant ce tournage ou,
Non. Non, parce que c'était une équipe qui était très réactive. C'est-à-dire qu'elle, non seulement elle faisait un tournage de film, mais elle faisait aussi beaucoup d'interviews. Interviews de résistants, interviews de spécialistes de cette époque-là, en particulier sur le maquis de Saffré. Et interviews aussi d'acteurs, mais un peu particulières. C'est-à-dire que c'était, en général, deux ou trois personnes qui étaient rassemblées et ils les faisaient échanger sur le projet. Et je pense que cette forme d'interview est très riche parce que chacun apporte un petit peu pourquoi il est avec nous, pourquoi il fait ce projet. Et je pense que le résultat devrait être bon. Mais, on attend ce moment-là. On a un peu peur.
D'accord. Donc, Transmission crée des spectacles historiques depuis 45 ans. Ce n'est pas cette période tourmentée qui va stopper votre élan, Michel. Donc, pouvez-vous nous dire comment vous envisagez l'évolution de votre spectacle et quelles sont vos perspectives et vos projets pour les années à venir ?
Alors, l'évolution, le spectacle a déjà 5 saisons. Je pense qu'il y en aura encore au moins autant, sinon un peu plus d'ailleurs, parce que, quand le Covid est arrivé, on avait déjà sur 10 000 places, on avait déjà 7 000 de vendus. Donc, c'était quand même à la fin du mois de février. Donc, c'est un spectacle qui marche plutôt très, très bien, avec des spectateurs qui viennent de l'ensemble des Pays de la Loire, de Bretagne aussi, avec des autocaristes qui jouent à fond le projet, puisqu'il y avait cette année un peu plus de 60 cars qui étaient prévus. Donc, ça, c'est une chose, ça fonctionne bien. Mais ce n'est jamais terminé. Par exemple, pendant le Covid, moi, j'ai continué à chercher des choses que je voulais insérer dans ce spectacle. En particulier, je recherchais un manège de 1940. Et j'ai trouvé ce manège. Le manège est très rare. Donc, voilà. Ça veut dire que l'an prochain, il y aura un manège 1940. J'ai trouvé aussi un wagon de la déportation qui était dans les Hautes-Alpes à 1800 mètres d'altitude. Et alors, donc, il y a une histoire derrière. Bref, on a ce wagon qui est arrivé à l'association. Donc, l'on va insérer dans la scène du camp de concentration. Et je pense qu'on continue encore à penser, enfin personnellement, je continue à rechercher des choses pour améliorer. On ne peut jamais dire, on a un bon spectacle, ben on vit là-dessus. Non. On a un spectacle, maintenant, il faut améliorer. Et là, on est à travailler sur des micro-scènes, c'est-à-dire que dans une scène principale, on a à faire des petites scènes qui permettent donc de mieux comprendre donc ce qu'a été l'époque. C'est ça qui est important. Alors, beaucoup de gens me disent, mais l'avenir, ce sera quoi ? Bien, l'avenir, c'est triste, mais il est dans ma tête. Donc, j'espère conserver ma tête le plus longtemps possible. Non, parce que quand un spectacle commence, pour moi, c'est terminé, d'un certain côté. Sous une forme, c'est terminé. Et donc, il faut déjà penser au suivant. Mais ça ne sort pas de ma tête, ce sont des choses qui tournent en boucle. Donc, viennent se greffer dessus des images, viennent se greffer de la musique, viennent se greffer des scènes, des corps. Et après, il faut accoucher. Quoi. C'est comme une femme qui porte un enfant 9 mois. Moi, je le porte plus longtemps. Hein. Donc, 9 ans, 9, 10 ans, là. Donc, voilà. Et pour moi, c'est la chance de ma vie. C'est-à-dire que j'ai toujours été un grand rêveur. Et voilà. J'ai la chance de le vivre en concret. Quoi, hein. Donc, ça, c'est important.
Merci, Michel Meunier, pour nous avoir accordé ce temps d'interview dans votre emploi du temps de jeune retraité, toujours très rempli.
Oui, un grand merci à vous, Michel Meunier, pour votre éclairage, pour la passion que vous portez en vous par rapport à la transmission. Et on sent que cette transmission, vous la portez. On se fait une joie de vous retrouver sur France 3 en novembre sur plusieurs créneaux horaires et en 2021 pour de nouvelles aventures. Vous pouvez suivre toute l'actualité de l'association Transmission sur leur site internet dans la nuit liberté.fr, tout attaché et en minuscules.
Regard pluriel avec l'invité surprise, Dauphile Desson.
L'invité surprise aujourd'hui vit à Marseille. C'est donc un peu de soleil méditerranéen que nous vous offrons, sans l'accent.
Cette année 2020, qui devait rimer avec très bien et 20 sur 20 dans mes prédictions, s'est avérée bien loin pour l'instant de mes attentes. Et pourtant, cette période atypique que nous avons vécue nous a conduit à reconsidérer notre rapport au temps qui passe et ainsi à interroger différemment les bruits et les sons qui nous entourent. C'est l'une de ces considérations qui nous a amenés à vouloir interroger des habitants d'ici et d'ailleurs et à les conduire à s'exprimer sur cette période. Alors, aujourd'hui, nous recevons Camille Lotsaïvin, résident à Marseille depuis une dizaine d'années. Bonjour Camille.
Bonjour Anna.
Alors, Camille, vous vous trouviez à Marseille lorsque le lundi 16 mars à 20h, notre président de la République, Emmanuel Macron, a tétanisé les Français en employant 5 ou 6 fois le mot « guerre » dans son allocution et tout un champ lexical guerrier avec des expressions telles que « l'ennemi est là, insaisissable et il progresse ». « Toute infraction sera sanctionnée. Nous sommes en guerre ». Alors, Camille, quel souvenir gardez-vous de ce moment, somme toute, grave ?
Alors, le premier souvenir, c'était d'apprécier la tranquillité et le silence de Marseille, puisque bon, c'est une ville qui est pleine de bruit, de brouhaha, de coups de klaxon, et c'était assez intéressant et agréable de découvrir une ville aussi tumultueuse, finalement bercée par la musique des oiseaux, et d'apprécier ce temps des oiseaux, finalement. Donc c'est ça qui m'a beaucoup plu, et les rendez-vous des 20h aussi, puisque j'ai eu la chance d'être dans un quartier qui était très animé et tout le monde a joué le jeu. Et il y avait énormément d'élan social.
De liesse populaire.
C'est ça. Ouais.
Est-ce que vous pouvez nous rappeler quel était ce temps du 20h que vous évoquez ?
Alors en fait, tous les soirs à 20h, les habitants sortaient sur leur balcon, à leur fenêtre, et donc applaudissaient. Et donc nous, on avait eu la chance d'apprécier donc chaque soir en fait un de nos voisins qui mettait une musique, et ça rythmait un petit peu nos journées aussi, et comme j'appréciais ces moments-là, j'ai pu faire une petite collection de musique et de moments d'applaudissements à chaque fois, donc voilà, que période. J'ai pu enregistrer.
C'était un peu devenu comme un rituel chaque soir,
tout à fait.
Attendu dans la journée.
Voilà, on se demandait quelle musique va être amenée. Et puis du coup, tout le monde apportait son petit instrument. Donc il y en avait certains qui étaient avec des casseroles, d'autres avec... Enfin moi, j'ai utilisé un sifflet. Il y avait même des trompettistes. Il y avait aussi quelqu'un qui récitait des vers de poésie aussi, un petit peu plus loin. C'était très agréable, et puis les enfants aussi à chaque fois qui s'émoustillaient, qui allaient courir dans le jardin et il est 20h.
Alors peut-être rappelons qu'à Marseille vous vivez dans un quartier un peu plus populaire que d'autres quartiers.
Oui, un peu plus populaire et avec des cœurs d'îlots assez importants.
Qu'est-ce que vous appelez des cœurs d'îlots ?
Les cœurs d'îlots, ce sont...
On sent l'architecte, voilà, en vous, dans cette terminologie très précise, puisque oui, j'ai oublié de rappeler à nos auditeurs, mais voilà, vous êtes architecte.
Tout à fait.
Alors, les cœurs d'îlots, qu'est-ce qu'on appelle les cœurs d'îlots ?
Ce sont les jardins qui donnent sur les cours, c'est côté rue et côté cour. Et donc, moi, j'ai eu chance d'habiter dans un appartement qui donnait sur un cœur d'îlot assez important, avec une école maternelle juste à côté, qui a donc 3 érables assez grands, assez vieux, et donc il y a des perruches, etc. Enfin, tout un microcosme de volatiles qui réside. Et donc j'habite juste à côté du parc Longchamp. Mm-hmm. Donc ça c'était...
Qui est dans quel arrondissement de Marseille ?
Qui est dans la limite du 1er et 4e arrondissement de Marseille.
D'accord. Pour éclairer un peu nos auditeurs, la limite de ces deux arrondissements, c'est par rapport au port, c'est situé à l'est, à l'ouest ?
C'est plutôt au nord de la ville.
D'accord.
Voilà, un tout petit peu plus au nord, oui, à côté de l'église des Réformés, entre les Réformés et le parc Longchamp, qui est le monument des arrivées aux eaux de Marseille.
D'accord. Voilà.
Qui a été, je ne sais plus de quelle année date ce bâtiment, mais bon, il y a un grand parc derrière, et du coup c'est très agréable puisque on est un petit peu en hauteur de la ville, mm-hmm, et moi j'habite au bout d'une rue, et c'était assez chouette de pouvoir partager ce
temps de fraternité.
Voilà, exactement.
Dans un temps, oui, où on était condamné chacun à être enfermé chez soi.
Voilà.
Alors, peut-être revenons un petit peu sur ma première question. Je voulais vous amener un petit peu à réagir sur ce... Alors, je ne sais pas si vous l'avez entendu en direct, ce discours d'Emmanuel Macron.
Si,
et est-ce que vous vous souvenez un petit peu dans quel état ça vous a mis ?
Euh, J'étais partagée entre... comment dire, j'étais à la fois terrifiée et puis en même temps, je prenais ça un peu à la légère et je trouvais que le président en rajoutait des tonnes, en fait, hein, finalement. J'ai trouvé ça un peu...
Était dans l'emphase.
Oui, répété 5 ou 6 fois, nous sommes en guerre. Et j'ai même tellement trouvé ça un peu ironique que j'ai renoté certaines phrases de son discours.
Comme s'il voulait nous faire peur d'une certaine manière encore.
Voilà. Terroriser les concitoyens, oui. Pour les maintenir dans une certaine forme de... Les contenir, en fait.
Oui.
Contenir leur, et puis surtout leur répéter. Et
casser les libertés,
voilà.
Peut-être.
Et toute infraction sera sanctionnée. Donc attention, attention.
Attention, je suis le méchant, le gardien du temple. Oui. Et
exactement.
Quiconque voudra faire autre chose sera
mis à l'index. J'ai pris ça un petit peu... c'est pas possible, il en rajoute des tonnes. Enfin, bon. Donc j'étais un peu sceptique. Voilà.
Bien. Alors, après cette annonce qui a laissé, comme on vient de le dire, la France dans le désarroi le plus total, nous condamnant à la plus grande infantilisation, en effet, dans aucun autre pays d'Europe, le confinement ne s'est accompagné d'une telle surveillance avec toutes ces attestations à signer. Et donc, une infantilisation semblable de la population traduit bien le manque de confiance du pouvoir envers les citoyens. Et vous, Camille, avez-vous aussi ressenti cet abêtissement ? Vous nous en avez un petit peu parlé à l'instant. Donc, avez-vous ressenti cet abêtissement auquel nous avons été annihilés ?
Oui, tout à fait. Je trouvais que les mesures étaient un petit peu drastiques et... Oui, on nous privait de notre liberté, mais pour nous maintenir dans la terreur et puis nous rabâcher que les sanctions, les contraventions suite au... Enfin, oui, vraiment, j'avais l'impression d'être à l'école.
Alors, comment avez-vous réagi face à cette réduction de nos libertés ? Est-ce que vous avez été, puisque vous parlez de l'école, avez-vous été une bonne élève ou au contraire, avez-vous eu envie d'enfreindre justement ces lois ?
Alors, les premières semaines, j'étais très
bonne élève.
Très bonne élève. Je suis vraiment sortie une fois par semaine, juste pour faire les courses. Je n'allais pas me promener, je restais chez moi. Et bon, j'ai la chance d'avoir une terrasse. Donc, au moins, j'avais ce rapport un peu à la nature et à l'extérieur. Donc, voilà, ça, c'était agréable. Et heureusement que j'avais ça, parce que je pense que sinon, je serais un petit peu plus... J'aurais peut-être enfreint un peu plus les lois. Et puis, par contre, progressivement, du coup, je n'habitais pas seule. Et j'étais un petit peu, quand même, malgré cette terrasse-là, je vivais dans un espace un peu restreint avec mon colocataire, et au bout d'un moment, on se marchait un petit peu l'un sur l'autre. Donc j'ai quand même passé une semaine chez une amie qui est venue me chercher, mais qui habitait toute seule elle aussi. Donc finalement, la prise de risque n'était pas énorme, mais j'ai eu besoin de souffler un peu et vivre une semaine dans un autre quartier, et à deux reprises.
Comme un sas de décompression.
Voilà, exactement. Donc là, j'ai pu apprécier le jardin,
Il y a cette image qui me vient du sas de décompression, un peu par rapport à ce que nous avons vécu, comme le scaphandrier au fond de la mer qui va remonter et qui va reprendre goût à la liberté au-delà de l'océan et qui remonte par paliers.
Oui,
on ne peut pas d'un seul coup retrouver cette liberté. Non. On est revenu à nos libertés ensuite progressivement après cette période violente de confinement finalement.
Oui. Au bout de la quatrième semaine, j'ai commencé à vouloir un petit peu plus m'échapper, mais tout en respectant complètement les règles imposées.
Sortir de cette apnée, finalement, dans laquelle nous étions, malgré nous, conduits.
Oui, c'est ça.
Alors, des périodes telles que celle-ci sont productives du pire comme du meilleur, car c'est finalement cet arrêt forcé de la marche du monde a redonné la parole au milieu naturel dans lequel nous évoluons. Vous parliez tout à l'heure des chants d'oiseaux que vous aviez reconsidérés. Et donc, cela nous a amené à réécouter d'une oreille différente le monde qui nous entoure. Alors, ma question est un peu contraignante. Quelles sonorités, quels bruits, s'il fallait n'en retenir qu'un seul, a-t-il retenu votre attention et que vous aimeriez nous faire partager, et pourquoi ?
Le lever du soleil, puisque les oiseaux honorent le lever du soleil. Et c'est vraiment, enfin généralement, c'est seulement le dimanche que je pouvais apprécier justement ce concerto volatile. Et finalement, bah, comme c'était dimanche tous les jours, du coup, je pouvais... Et j'ai passé... j'ai fait plusieurs levées de soleil, finalement. Je veillais parfois, parce que j'ai eu des problèmes d'insomnie, etc. Finalement, ce silence, etc. Et donc, en fait, finalement, je veillais jusqu'au lever du soleil et je pouvais apprécier ces oiseaux qui chantaient. Et finalement, c'était eux qui vivaient au sein du quartier. C'était eux les animateurs du... c'était vraiment... puis on sentait qu'en fait, chacun avait son moment. Au début, les petits du matin, puis après... alors, les gabions aussi, donc qu'on appelle...
Les gabions.
Les gabions, ce sont des mouettes en provençal, enfin des goélands en provençal.
D'accord.
Et donc, c'était la saison des amours. Donc, on a été pas bercés cette fois-ci, mais plutôt accablés par les oiseaux et leurs...
leurs ébats. Leurs ébats,
exactement.
Qui étaient,
voilà, qui étaient
très productifs.
Voilà, dans toutes cette les 5 minutes, on se demande, mais qui est-ce qui crie comme ça? Non, ce ne sont pas les voisines, non, ce sont les gabions qui. Voilà, donc ça.
Qui étaient dans tous leurs états.
Complètement, et on s'est même dit à un moment, mais ça va être un scénario à la Hitchcock, les oiseaux d'Hitchcock, on va être envahis, mais bon, finalement, il n'y a pas eu tant que ça de petits. Suite au confinement, mais voilà. Non, ça, c'était assez marrant, finalement, mais c'était eux, en fait, qui animaient, parce que d'habitude, on entend les klaxons, les voisins qui crient...
la vie marseillaise.
Et là, en fait, la vie marseillaise était... enfin, s'entendait au travers des oiseaux, finalement, c'était eux qui...
Qui avaient repris le terrain,
le contrôle,
l'espace.
Voilà, c'est ça.
Bien. Merci. Alors, pour terminer ce temps passé avec vous, Camille, j'aimerais connaître votre avis sur, vous en avez un tout petit peu parlé, sur l'importance de ce silence qui nous a été imposé et qu'il a fallu redompter et apprivoiser. Alors, vous en parliez justement avec ce temps de l'entre-deux où le jour n'est pas encore là et où la nuit commence à se terminer. Alors, sur le silence. Qu'est-ce que ce silence? Est-ce que c'était un silence pour vous qui a été, productif ou pesant?
Oui. Non, productif au contraire, puisque j'ai énormément enregistré aussi ces sons, puisqu'ils m'apaisaient aussi d'une certaine manière. Et voir Marseille silencieuse, plutôt. Non, c'était pas silencieux, mais c'était agréable. Et puis j'avais l'impression d'essayer de comprendre aussi ce qu'ils voulaient dire, de voir qu'ils pouvaient communiquer entre eux et de voir qu'ils n'étaient pas du tout impactés par le brouhaha. Et c'était eux, les représentants de la vie, en fait.
Alors, vous parliez de vos insomnies. Oui. Justement, lorsqu'il fait nuit, même la nature, finalement, se tait. Alors, ce silence de la nuit, comment l'avez-vous vécu? Dans ces temps d'insomnie, comment l'avez-vous vécu? Comment l'avez-vous comblé, s'il fallait le combler?
J'écoutais beaucoup de musique aussi à ces moments-là. Bon, après, il y avait les gabions la nuit quand même, puisque
ils
continuent parce qu'ils mangent à ce moment-là, finalement.
D'accord.
On les entend presque plus dans la soirée, dans la nuit que... Et les ébats, exactement, aussi. Non, j'ai pas été... c'était pas un silence pesant, au contraire, puisque Marseille, je l'ai toujours vécu bruyante. Mm-hmm. Donc non, c'était plutôt agréable. Et j'ai par contre, j'ai beaucoup écouté de musique les soirs, en fait. Et puis je suis revenue à plein de registres différents. Et j'écoutais, au bout d'un moment, je ne pouvais plus entendre les infos, la radio, etc. Ça m'oppressait, donc j'essayais de me détacher de ça et en écoutant des sons multiples. Et j'ai fait aussi pas mal de vidéos.
Alors, si vous vouliez partager avec nous une musique que vous avez aimée, dont vous vous souvenez principalement par rapport à cette période, de quelle musique aimeriez-vous nous parler?
Il y en a eu plein de musiques finalement.
Peut-être une que vous pouvez choisir et qu'on fera écouter à nos auditeurs.
Un soir, du coup, un de nos voisins nous a mis une musique de Pulp Fiction.
D'accord.
Je ne sais plus quel est le titre exactement, mais ça m'a fait sourire. Et puis, en fait, voilà, c'était un rendez-vous finalement. Et on se demandait, mais voilà, ce sera pour l'année prochaine. C'est marrant parce que du coup, un de mes voisins, donc, là où j'habitais, mettait de la musique tous les soirs à 20h. Et quand je suis allée chez mon ami dans un autre arrondissement, c'est moi qui ai pris le relais finalement là-bas.
Oui.
Et donc j'ai pu mettre.
C'est vous qui faisiez voilà. le disjockey.
Voilà. We are the champions, my friends. Donc ça, c'était sur la fin, voilà, que j'ai mis ça. Pour histoire montrer... de dire on a réussi, on a tenu le coup et voilà.
Et on s'en est sortis.
Exactement.
Eh bien, nous allons terminer sur cette note très positive.
Voilà.
Merci Camille, un grand merci,
merci
pour ce temps que vous nous avez consacré pour échanger avec nous autour de votre ressenti et pour nous offrir un regard marseillais. Au revoir Camille.
Au revoir Anna.
Le coup de cœur du mois d'Anna et Sylvia.
Notre coup de cœur du mois est l'œuvre de Stéphane Tidet, Rideau, une cascade sur la façade du Théâtre Gralin, créée à l'occasion du Voyage à Nantes 2020, qui a eu lieu exceptionnellement cette année, du 5 août au 27 septembre. Pourtant, pour moi, ce n'était pas gagné. Je traverse quasiment tous les jours la place Gralin. J'ai donc vu au mois de juillet se mettre en place cette œuvre avec de nombreux hommes mobilisés en train de travailler sous un soleil de plomb. Importante logistique avec de nombreux matériaux. Bref, je trouvais démesuré et quasiment indécent dans le contexte actuel de créer une œuvre éphémère avec autant de moyens et de ressources. J'avais donc un a priori très négatif à l'égard de cette œuvre avant même de l'avoir terminée. Alors, il faut vraiment s'affranchir de tout a priori, je le sais pourtant, car quand j'ai découvert le 5 août l'œuvre terminée avec ce rideau d'eau dévalant de la façade du Théâtre Gralin, j'ai été bluffé, émerveillé, et là je me suis dit waouh, chapeau l'artiste et bravo à tous ces hommes qui ont permis la réalisation d'une telle œuvre. J'ai profité chaque jour durant cette période de ce rideau d'eau, de ces embruns qui rafraîchissaient les nombreux visiteurs et de ce déluge bruyant.
L'artiste Stéphane Tidet est né le 20 juin 1974. Il vit et travaille à Paris. Diplômé de l'École supérieure d'art et design Le Havre-Rouen, il a poursuivi sa formation à l'École nationale supérieure des beaux-arts de Paris. Dans son travail multiforme, il mêle sculpture et installation. Sa démarche consiste souvent à créer un décalage, sorte de pas de côté pour forcer le spectateur à revisiter sa conception du monde. L'œuvre, Rideau, illustre bien cet état de tension entre la réalité, l'eau qui s'écoule de la façade du Théâtre Gralin, et l'imaginaire poétique qui en découle, les cascades naturelles que l'on peut observer dans la nature. C'est bien un univers du décalage qui est recherché. Il faut surprendre et subjuguer le public, ce qui fut notre cas, Place Gralin. La féerie de cette œuvre gigantesque est accentuée lors des nocturnes, mettant en relief ce déluge d'eau incessant. La lumière artificielle accentue alors la majestuosité de cette installation improbable. Déjà en avril 2018, à Paris, grâce à un ingénieux dispositif, l'artiste Stéphane Tidet avait joué avec l'élément liquide puisqu'il avait réussi à détourner la Seine pour la faire couler au milieu de la conciergerie située à côté de l'ancien palais de justice sur l'île de la Cité dans le premier arrondissement. Si vous aimez être surpris par l'art, vous pouvez retrouver l'actualité de cet artiste sur le site stéphanetidet.com.
Merci à tous d'avoir suivi cette émission Au fil des sons, c'est terminé pour aujourd'hui. Nous tenons à remercier Michel Meunier de l'association Transmission et Camille de Marseille pour le temps qu'ils nous ont consacré. Et bien sûr, un très grand merci à Jean-Pierre, notre réalisateur sans qui cette émission n'existerait pas, et également à toute l'équipe de Prune 92 FM. Vous pouvez réécouter l'émission en podcast sur www.prune.net.
On se retrouve jeudi 12 novembre 2020 de 13h à 14h pour une nouvelle émission de Au fil des sons qui sera cette fois-ci consacrée à l'univers des bruits des transports. Sur Prune, 92 FM et en DAB+ sur Saint-Nazaire. À suivre la playlist. Bonne journée à tous.